Alors, dimanche dernier, nous avons regardé ensemble, donc c'est la première partie qui est, dont le plan est présenté là, la scène, son institution, l'enseignement reçu par Paul, deux exemples, et puis, dans une seconde partie, toujours les versets de l'Écriture, ce qu'elle nous enseigne relativement donc à notre responsabilité, la responsabilité de l'Assemblée. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être mal dit ou pas dit pourquoi ce qui suit, donc les points suivants ont été abordés. C'était en fait pour un peu préparer les conséquences pratiques dans notre vie du rassemblement aujourd'hui, comment faire. La scène, nous n'apprenons pas bien sûr individuellement, nous l'apprenons ensemble. Et donc, il y a eu tout un enseignement donné sur recevoir. Nous avons donc en premier lieu veillé, recommandé, et puis ce qui est dû à notre propre état moral, de celui qui l'apprend et de ceux avec lequel elle est prise. Donc, maintenant nous aborderons la seconde partie, qui est une partie, j'allais dire plus délicate, qui est une partie où nous appliquons, nous tendons à appliquer, à nous approcher le plus possible de ce que la parole de Dieu dit au jour d'aujourd'hui, dans la chrétienté d'aujourd'hui. Alors, il y a, en point 2, donc, un rappel, une synthèse, donc, de ce que nous avons dit, de ce que nous avons vu, pardon, et lu, donc, dans les enseignements bibliques. Et la troisième partie, c'est une partie spécifique que les frères qui m'avaient contacté m'avaient demandé d'aborder. Il y en a d'autres, nous le verrons donc aussi. Il y a d'autres points qui sont tout aussi importants. Donc, comment, dans le temps actuel, donc, pouvoir recevoir occasionnellement un chrétien à la scène. Alors, je vais directement donc sur le point 2. Oui, ce que je dis aussi, c'est qu'un texte un peu synthétique, certes, mais dans lequel les principaux points de la première et de la deuxième partie sont développés, sera à la disposition. Je ne l'ai pas photocopié. On le laissera, c'est dans des formats classiques pour ceux qui savent imprimer. Donc, le texte et les petits parables. Alors, maintenant, l'enseignement, donc, que nous pouvons en retirer. Et là, j'insiste, c'est une partie plus interprétative, fruit de l'expérience, fruit de ce que l'on a pu apprendre, et bien sûr, fruit aussi, et c'est là l'essentiel, de ce que l'on comprend donc dans l'Écriture. Participer. Alors, j'ai structuré donc les points un peu synthétiques donc sur la participation à la scène dans le pourquoi, qui, avec qui, comment, où et quand. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous invite, et c'est là le point essentiel. Nous l'avons vu, prenez, mangez. Et c'est lui qui nous le donne. Donc nous recevons cela de la main du Seigneur. Peut-on refuser ? Qui peut refuser ? Est-ce que le croyant peut refuser ? C'est une question qui nous sonde. Pour ceux qui y participent et qui ont peut-être souvent des exercices, et nous l'avons vu, suis-je dans l'état qui convient ou telle circonstance, mais qui peut refuser ? C'est pas notre scène, c'est la scène du Seigneur. et nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 11, c'est la table du Seigneur, c'est lui qui invite. Alors pourquoi est-ce que nous le faisons? Donc, nous le faisons en mémoire de lui, de son sacrifice, par lequel nous sommes sauvés. C'est le premier point. Mais nous avons vu aussi dans l'enseignement de Paul que nous le faisons pour rappeler que tous les croyants sont unis à Christ en un seul corps. Il n'y a pas que le pain, c'est, nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 10, 20, la coupe, donc, et le pain. Ensuite, donc, qui ? Les enseignements que nous avons vus sont clairs. L'enfant de Dieu. Celui qui est né de nouveau, celui qui a reçu la vie divine. C'est donc le croyant qui a cru à l'œuvre salvatrice accomplie par Christ à la croix. C'est un point qui est évident pour nous tous, mais nous savons que il y a des milieux et des églises établies où cette question n'est pas mise en avant. Et c'est d'ailleurs un des fondements qui a conduit à la naissance des assemblées des frères. On le verra un petit peu après. Avec qui ? Eh bien, avec ceux qui ont la même foi, qui ont reçu, comme nous dit l'Écriture, une foi de pareil prix, avec tous les croyants. Car ils ont une part commune dans le sang de Christ, c'est ce qui a été devant nous, donc dans 1 Corinthiens 10, et qui ne vivent pas dans un mal comme nous-mêmes aussi, dans un mal moral où ne professent pas des doctrines contraires à la personne du Seigneur et à son œuvre. Et c'est un point essentiel d'un point de vue pratique. Comment est-ce que nous l'apprenons ? Alors, où d'abord ? Eh bien, dans le rassemblement des saints, tel que nous le voyons dans l'Écriture, on a vu deux exemples dans le livre des Actes, c'est des saints qui se réunissent au seul nom du Seigneur. Et principalement, le rassemblement auquel je me rattache. Et si je suis loin, eh bien, avec ceux qui le font de la même, plutôt qui se rattache à un rassemblement tel que je l'ai saisi, tel que je l'ai compris de l'Écriture, c'est-à-dire un rassemblement où le Seigneur est honoré, respecté, où l'on a conscience de sa présence, où on est réuni au nom du Seigneur, mais aussi où les vérités de l'Écriture sont devant les saints. Je ne dis pas qu'il les respecte tous, il peut le faire. Qui sommes-nous pour cela ? Et c'est tout l'exercice permanent de la vie de l'Assemblée. Mais le but, c'est donc de respecter ce que Dieu nous enseigne dans l'Écriture. Dans les deux cas, donc, que ce soit là où je me rattache, et c'est un point essentiel parce que, et on y a insisté aussi sur les passages, le croyant, lorsqu'il est donc avec d'autres croyants, participe à la vie de l'Assemblée. Ce n'est pas un spectateur, c'est un participant. Il a, et c'est les anciens éléments qu'on peut trouver dans Romains, dans Éphésiens et dans 1 Corinthiens, il a un service, il a une fonction, il a une part dans la vie de cette Assemblée. Et il est bien, c'est un peu comme on l'a vu ce matin, sa famille, la famille localement peut présenter. Ensuite, donc, comment ? Eh bien, dans le jugement de soi-même et vivant dans la seule consécration au Seigneur. Ça, c'est une question tout à fait personnelle, de se mettre toujours à la lumière de l'Écriture. Il est peut-être pour nous une tendance qui n'est pas bonne, c'est de l'appliquer pour les autres. Je le dis pour moi-même. Mais ce que nous dit l'Écriture, que chacun se juge soi-même. Nous n'avons pas à juger les autres, sauf s'il y a un mal, bien sûr, moral ou doctrinal a été caractéristiques. Mais nous avons à nous laver les pieds, Jean 13, les uns des autres, et cela est important, nous avons à nous aider les uns les autres pour que nous soyons éclairés quant à notre propre vie. Quand ? Alors, dit essentiellement le premier jour de la semaine, mais ce n'est pas exclusif. On voit, nous l'avons vu dans le livre des Actes, acte 20, que c'est le premier jour de la semaine qu'ils ont rompu le pain, donc à Troas. On voit aussi à la fin de la première épître aux Corinthiens que l'apôtre, il ne parle pas de la scène, mais il parle justement le premier jour de la semaine, lorsque chacun met à part quelque chose pour offrir au Seigneur. Et si on lit cela avec le chapitre 13 de l'épître aux Hébreux, les offrandes donc, sont dues, font partie globalement de la louange. Donc, c'est ce qui est arrivé dans la chrétienté, principalement donc, le premier jour de la semaine, mais ce n'est pas exclusif. Faisons bien attention, il n'y a pas d'interdiction à le faire d'autres jours si l'Esprit de Dieu nous y conduit. Recevoir. Quel but ? Alors je parle de la réception d'une manière générale. On emploie ce terme, par exemple, dans un rassemblement local, d'admission. En fait, ce n'est pas l'assemblée qui reçoit, c'est le Seigneur qui reçoit. Mais le rassemblement a la responsabilité de veiller. Le passage que nous avons vu, donc en particulier vis-à-vis de ceux qui ont une autorité particulière et bien claire dans le rassemblement, les frères anciens, frères responsables qui sont aussi appelés frères qui sont à la tête ou surveillants. Ils veillent. Donc, de telle manière à ce que chacun puisse réellement éprouver la communion qu'il y a les uns avec les autres. Le fait que nous sommes un et que nous le manifestons, donc que nous le rappelons plutôt lorsque nous sommes ensemble autour du Seigneur pour la scène. Donc, il y a un ordre nécessaire dans le rassemblement. C'est le rassemblement local qui est responsable, et les enseignements de Paul sont clairs à ce sujet, et en particulier pour discipliner lorsqu'il y a lieu. Ensuite, donc, comment ? Eh bien, c'est le rassemblement local qui administre, qui constate cette réception. Il faut que chacun soit au clair vis-à-vis de la communion. On parle souvent de la communion comme quelque chose qui nous est dû, mais c'est aussi quelque chose que nous devons aux autres. L'enseignement de l'Épître aux Romains, en particulier Romains 14, sont clairs à ce sujet. Nous avons des devoirs vis-à-vis de nos frères et sœurs, sinon la communion pratique n'est pas possible. Alors, tout ça, c'est une question de spiritualité et d'équilibre, il n'y a pas de loi. Le Seigneur nous a placés dans cette liberté vis-à-vis de nos propres frères et sœurs pour avoir un devoir d'amour vis-à-vis d'eux et aussi, bien sûr, avoir une responsabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, un service au sein de chaque rassemblement local. Alors, mais le fond, donc, c'est bien de la responsabilité locale, mais la forme, il y a là aussi, dépend, j'allais dire, d'un rassemblement local à un autre. Il est clair que nous avons, quant au fond, à manifester la réalité du corps de Christ, de l'assemblée qu'il forme lui-même, mais quant à la forme, eh bien, c'est ce que l'Esprit donnera aux saints sans qu'il y ait une forme établie définitivement de telle manière à ce que tout se fasse pour la gloire de Dieu, comme nous l'avons vu donc dans le chapitre 15 de l'épître aux Romains. Alors ensuite donc juste le point qui n'est pas l'objet de ce que je ne s'affiche pas, ce n'est pas bien grave, c'est discipliner, pourquoi, nous avons vu pourquoi, parce que c'est ce qui est dû au Seigneur. Lorsque bien sûr cela est nécessaire, il faut que ce que nous professons, ce que nous rappelons, et nous sommes là devant la perfection et la grandeur de l'œuvre du Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Pierre dira que nous avons été rachetés de notre vaine conduite par le sang précieux de Christ. Eh bien, il faut que notre attitude, notre être intérieur, tout d'abord, soit bien en phase, en harmonie avec ce que le Seigneur a fait. Ensuite, donc, un exercice pratique. La participation occasionnelle d'un chrétien à la fête. Nous commencerons par quelques remarques historiques, où elles sont bien connues, mais nous, les rassemblements que nous connaissons ont une histoire, ont une origine. Et il est bon de se rappeler, non pas que ce soit normatif, mais pourquoi est-ce qu'ils sont nés, pourquoi est-ce qu'ils sont de telle manière actuellement. Alors, on sait que mi-19e siècle, donc, il y a eu ce qu'on appelait un réveil. Un peu partout en Europe, et principalement donc dans les pays occidentaux, beaucoup de chrétiens se sont posé cette question, mais est-ce que les églises établies, d'une part, les églises institutionnelles, que ce soit par exemple pour l'Angleterre en anglicane, pour la France réformée, est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur enseigne? Parce qu'on voit participer à la scène justement ce que je disais tout à l'heure, des croyants et des non-croyants. Il y avait aussi des doctrines qui semblaient, qui étaient professées, qui sont apparues pour ces croyants comme contraires à l'Écriture. Il y avait aussi des églises confessionnelles. Par exemple, les baptistes, par exemple, les moraves ou les puritains, qui existent encore, et celles que j'ai citées tout à l'heure existent encore. Mais c'était, je crois qu'on peut les définir autrement. Pourquoi? Parce que c'était de vrais chrétiens qui étaient là. Mais ils ajoutaient, ou ils mettaient en relief des doctrines particulières, par exemple, chez les baptistes, nous savons que ce n'est pas chez tous, mais la caractéristique, c'était qu'il est nécessaire d'être baptisé pour être sauvé. Alors, que faire? Eh bien, ces chrétiens ont eu le désir, ils n'en peuvent plus que continuer de nous trouver là. Nous voulons servir le Seigneur ensemble et voir ce que l'Écriture dit. Il y a eu donc tout un travail, tout un exercice, comme on dit, et des rassemblements de croyants sont nés. Mais ces rassemblements de croyants, donc, la question s'est posée tout de suite, est-ce que nous allons former une autre dénomination? Est-ce que nous allons être comme ceux que nous quittons? Ils se sont dit non, ce n'est pas le chemin de l'Écriture. Nous ne pouvons pas être une dénomination parmi d'autres dénominations. Alors, quels ont été un peu les critères? Donc, les critères, c'est comment, qu'est-ce qu'un rassemblement, comment se réunir? Dans 2 Timothée 2, qui est souvent cité au verset 22, qui est souvent cité à ce sujet, eh bien, nous sommes appelés à poursuivre la justice, la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Appelé à se séparer aussi ceux qui, dans la grande maison, c'est-à-dire toute la chrétienté professante, donc n'honorent pas le Seigneur. Donc il y a eu cette direction, il y a un chemin pour aller ensemble et se réunir ensemble avec d'autres croyants. Bien sûr, ce que le Seigneur dit dans Matthieu 18 est apparu alors aussi très clairement, on pourrait même dire réapparu, parce que des réveils, il y en a eu plusieurs, mais nous parlons du dernier que nous connaissons pour notre pays occidental. Hein, il y a aussi d'autres réveils plus récents ailleurs. Mais nous parlons de celui dont on est un peu les... dont on provient. Alors, se réunir au nom du Seigneur dans le souci de respecter l'Écriture. Et alors, il y a un point sur lequel on a chopé, je vous le dis très clairement, j'ai à choper. Je ne dis pas que je n'a chopé plus, mais il est nécessaire, je crois, de le rappeler. Je le fais peut-être très partiellement et maladroitement, mais c'est un point important vis-à-vis de l'identité d'un rassemblement. Nous savons que l'Église est une, que le corps du Christ est un, et que tous les croyants sont membres du corps de Christ. Ce serait une hérésie que de dire que dans la ville de Bordeaux, eh bien, l'Assemblée, c'est ceux qui sont ici. Non, et ce n'est pas du tout ce qui a été devant ceux qui se sont séparés pour se réunir ensemble. Non, les croyants sont partout. Mais alors, est-ce que l'assemblée locale, c'est bien ici l'assemblée rue Albert Parot? Non, au sens scripturaire, non. Dans la ville et dans ses alentours, il y a bien des chrétiens qui se réunissent ailleurs, ou peut-être au nom du Seigneur, nous ne savons pas tout, mais aussi qui se réunissent dans des groupes et des dénominations que nous connaissons. Et ceux-là aussi font partie de l'assemblée locale. Donc ce que nous sommes, c'est un rassemblement de chrétiens locaux, sans avoir la prétention de représenter l'assemblée locale. Nous en faisons partie, mais ce n'est pas exclusif, loin de là. Et ça, c'est un point important, il définit notre identité. Parce que, on entend, on peut aussi être un peu surpris, je l'ai été en parlant d'église, je vais à l'église. Alors si c'est un lieu physique, je peux le comprendre, mais si c'est l'église ou assemblée, c'est le même terme en grec, donc ecclésia, eh bien si c'est l'église ou l'assemblée, non. Je vais dans le rassemblement local, je n'ai pas du tout la prétention d'être, d'aller là où tous les chrétiens se réunissent et uniquement ceux qui se réunissent là font partie de l'assemblée locale. Donc c'est un rassemblement local. La conséquence, c'est quoi? Une conséquence très pratique, c'est que nous n'avons ni nom, mais nous n'avons pas de nom, mais nous avons une identité. Nous ne sommes pas, on ne peut pas, et les assemblées de frères ont toujours refusé qu'on leur donne un nom. Pourtant, il faut un peu les appeler, c'est pour ça qu'il dit frère, mais ça ne me plaît pas beaucoup parce que ça serait frère et sœur en fait. Pourquoi est-ce qu'on dit que les assemblées de frères? C'est pour ça que je préfère, à titre personnel, le terme de rassemblement local. Donc, il n'y a pas de nom. Mais il y a une identité et elle doit être très claire pour nous parce que dans tout exercice vis-à-vis de l'Assemblée, il y a souvent ce problème, cette question de qui sommes-nous, pourquoi sommes-nous là, qui revient. Alors, je vais aller un petit peu plus vite là parce que c'est des choses que nous avons vues. Nous sommes invités par le Seigneur. Ensuite, il y a un seul point. Je rappelle les points importants donc, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut avancer dans ce point 3. Nous exprimons donc que nous participons tous à un seul et même pain. Donc nous sommes en communion les uns avec les autres. Et nous sommes en communion invités par le Seigneur dans ce lieu spirituel qui est la table du Seigneur. C'est sa table. Nul ne peut prétendre qu'il a la table. Tous peuvent désirer que nous soyons ensemble invités par le Seigneur à sa table. Il faut faire attention sur ce point-là, parce que sinon on opposerait les uns aux autres. Je ne dis pas que nous avons, et on le verra un petit peu plus loin, toute liberté pour aller dans des dénominations, bien au contraire. Mais la table, c'est le Seigneur qui nous invite. C'est la table du Seigneur, nous l'avons vu dans 1 Corinthiens. Jugement de soi-même et séparation du mal, responsabilité et autorité dans le rassemblement local. Ça c'est un point, donc j'y reviens. Nous devons avoir une attitude responsable dans le rassemblement local. Tout à l'heure, Benjamin a manifesté qu'il a une responsabilité avec d'autres, mais celle de s'occuper de ces adolescents, de les encadrer. Il y en a bien d'autres. Mais chacun doit trouver sa place pour pouvoir vivre la vie de l'assemblée locale. Sinon, c'est un papillon. Et des questions souvent se posent et ne se poseraient pas si on avait bien réalisé qu'on a une fonction et qu'on est vraiment attaché à son rassemblement local. La suite. Quelques pierres d'achoppement. La souillure en chaîne. C'est une question qui a été soulevée plusieurs fois, mais que dit l'Écriture? Le croyant est appelé à se séparer du mal. Nous l'avons vu, et il y a d'autres passages, vous aurez dans le texte que je vous laisserai, 2 Corinthiens 7, verset 1 et Hébreux 12, verset 14, ça marche et dans la sainteté. Toutes les épîtres, la plupart, sont adressées aux saints. Nous sommes saints parce que le Seigneur nous a rendus tels. Et la contrepartie, la conséquence pour nous, c'est de marcher dans la sainteté. Nous sommes appelés à marcher dans cette sainteté. Alors, si nous sommes en contact, entre guillemets, ce mot n'est peut-être pas tout à fait bon, avec une personne, un converti ou pas, dont nous connaissons et nous savons qu'elle est dans un mal caractérisé, est-ce que nous sommes souillés? Il y a des textes très importants qu'on trouve dans Matthieu et Marc à ce sujet, Marc 7, verset 18 à 22, c'est le Seigneur qui parle. Qu'est-ce qui nous souille? Il dit, ce qui vous souille, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme. Ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme, mais ce qui sort de l'homme. Mauvaise pensée, etc. C'est ça qui souille. Nous ne sommes pas souillés parce que nous entendons, une partie de la chrétienté, en un temps donné, a voulu se séparer et être complètement isolée. C'était les monastères et les ascètes, en particulier dans la partie qu'on appelle l'Église orthodoxe, parce qu'ils ne voulaient pas se souiller avec rien du tout. C'est parce que le Seigneur dit, nous sommes souillés par nos propres pensées, et on le sait bien. Et qu'est-ce que ces propres pensées mauvaises, par nos propres pensées mauvaise, que cela soit bien clair. Qu'est-ce qu'elles engendreront? Eh bien, elles engendreront tous les désordres moraux, et puis aussi peut-être doctrinaux, par exemple, si l'on veut être quelqu'un, ou si l'on pense que l'on peut défendre quoi que ce soit. Nous sommes appelés à témoigner. Mais il faut faire extrêmement attention, donc, à que la souillure est quelque chose qui vient de chacun de nous. Je suis souillé par mes mauvaises pensées, les mauvaises convoitises, etc. Relativement aux incrédules, quelle est l'attitude? Nous connaissons bien ce passage donc, de 2 Corinthiens 6. C'est ne vous associez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. C'est vrai que nous devons aller et travailler, mais il y a un témoignage qui est à rendre de ce que nous sommes, et on peut tout à fait aller et travailler sans se conformer à ce que les incrédules font de mal. Parce que, faut bien voir, et nous le savons bien, qu'ils ne font pas tout mal. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, nous ne pouvons pas aller avec eux, nous devons le dire, et avoir une conduite telle que nous ne sommes pas sous un même joug. Nous ne faisons pas ce qu'ils font. Nous ne pensons pas ce qu'ils pensent. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons reçu ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Relativement aux croyants individuellement, c'est peut-être que nous avons à faire. Bien, nous avons à les avertir. Galates 6, verset 1. Et puis, peut-être aussi, si c'est nécessaire, s'ils sont, après ces avertissements, s'ils restent dans un mal moral ou doctrinal, donc s'ils sont dans un péché connu, eh bien, nous avons à les reprendre. C'est titre 1, verset 13. Et puis, si ça va encore plus loin, eh bien, nous avons à nous en détourner, ne pas aller, ne pas participer à leurs mauvaises œuvres. 2 Timothée 3, verset 5. Et puis, ça peut aller jusqu'à rejeter, ne plus avoir aucun contact avec eux. Titre 3, verset 10. Et c'est le terme extrême de la séparation, toujours en but, toujours dans le but, toujours pour que le Seigneur opère, que l'Esprit de Dieu opère, et que ce croyant n'ait pas l'illusion que nous sommes d'accord avec ce qu'il fait, et pour qu'il soit confondu dans son être intérieur, et qu'il puisse se rendre compte de ce qu'il fait et s'en repentir. Alors maintenant, un peu collectivement, 22. Relativement à la chrétienté professante, on ne parle pas de la chrétienté de la part de ceux qui sont des croyants, mais ce dont je veux parler là, c'est globalement. Donc, relativement à la chrétienté professante, si une souillure n'est pas jugée collectivement, et il y a des systèmes qui ne le font pas, eh bien, nous avons à ne pas aller avec eux. Et on revient donc sur un peu la partie historique, on s'en détache. Lorsque les assemblées comme celles qui sont en Asie, par exemple Apocalypse 2 et 3, ou celles de la Galilée, ou à Corinthe, s'écartent et ne jugent pas ce qui est contraire à la vérité, que disent les apôtres? Les fidèles sont invités à ne pas se souiller, à tenir ferme et supporter les afflictions. Il n'y a pas de contamination sans que le cœur ne le soit. C'est un point important. Je pense personnellement, il faut faire extrêmement attention à la souillure, mais qu'elle n'est pas un chef. Et que nous avons à aller là où le Seigneur nous a placés pour manifester ce que nous avons reçu de lui. Une deuxième pierre de achoppement, sectarisme ou laxisme. Je ne m'étendrai pas beaucoup parce que c'est quand même clair. Nous n'avons pas à aller dans le sectarisme et nous n'avons pas plus à aller dans le laxisme. Ces deux dangers sont quand même bien réels. Mais lorsqu'on les invoque, je me pose la question d'abord pour moi-même. Est-ce qu'on ne pense pas d'abord aux autres? Ah, il va dans un chemin large, ou ils vont dans un chemin large. Mais c'est à nous que Dieu nous pose cette question. Il faut lire cela, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, et je ne cite que ce qu'il nous est dit à propos de l'amour. L'amour n'impute pas le mal. Je ne peux pas me séparer en vue de ce qu'ils feront. Non, si je ne le sais pas. Non, 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 c'est impossible. Donc faisons extrêmement attention à cette attitude. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Mais je le rappelle, le sectarisme de Timothée 2, verset 18, ou le légalisme, Colossiens 2, verset 10 et 20, ou le laxisme, Galates 5, 13, etc., tous ces passages-là, sont des dangers qui se posent à chacun de nous et dans lequel nous pouvons malheureusement tomber si nous n'y faisons pas attention. Et si nous y souscrivons à cette pensée, ah mais on va tomber dans l'axisme ou dans le sectarisme, c'est ôter toute confiance dans les soins du Seigneur à son assemblée. Le Seigneur veille sur son assemblée, je ne peux pas douter qu'il le fasse pour mes frères et sœurs. Alors, un autre point, donc, la société environnante et nos comportements. Ça, c'est un point qui pourrait être très divers sur ce sujet, mais qui est important et sur lequel il faut que nous fassions le point. L'individualisme. Qu'est-ce que ça s'est développé dans la société actuelle? Et que d'efforts sont faits en formation, etc., pour essayer de faire travailler les gens ensemble? Mais en fait, c'est une évolution de la société qui peut avoir des conséquences sur notre propre comportement. Et l'Écriture est claire sur ce sujet. Quand l'apôtre, par exemple, dans 1 Corinthiens 12, parle du corps de Christ, de la fonction de chaque membre ne peut pas agir isolément. Chaque membre a besoin les uns des autres. Si un membre souffre, tout souffre, etc. Il y a de longs versets dans l'épître aux Galates aussi, par exemple dans le verset 2, qui nous parle de cette nécessité que nous avons d'être ensemble parce que nous sommes complémentaires, comme dans un corps. Et pour que le corps vive, il faut que l'ensemble de ses membres puisse être là et puisse vivre. Un autre point qui, me semble-t-il, est aussi issu du comportement de la société, des hommes, des femmes dans la société, c'est imposer ou exposer. Alors, je ne mets absolument pas en doute l'autorité dans la famille. Père, la mère ont une autorité vis-à-vis de leurs enfants pour imposer, tout en exposant. Mais il y a ce fait, tu dois faire cela. C'est l'autorité parentale. Mais ici, nous ne sommes pas dans le domaine de l'autorité de la famille. Nous sommes dans le domaine de l'autorité de la famille de Dieu. Et c'est le Seigneur qui a toute autorité, ce n'est pas nous. Alors comment est-ce que nous allons faire? Quel va être notre comportement lorsqu'il y a une difficulté? Eh bien, il faut exposer. Et il me semble que c'est la plus belle et la plus nécessaire manifestation de la spiritualité de la foi, d'exposer et que d'attendre que le Seigneur agisse. C'est un point qui est important parce que si nous imposons, eh bien, d'une certaine manière, nous ne laissons pas le temps au Seigneur de agir. Ou peut-être que nous allons imposer quelque chose qui n'est pas selon ce qu'il aurait fait, lui. Mais nous avons à exposer. Voilà ce que je crois. Voilà ce que je pense. Mais à continuer d'aller avec les saints. Faire pression ou partager. Ça, c'est un autre point aussi. Alors, vis-à-vis du premier point, je citais des passages qui sont liés donc, du point précédent, imposé ou exposé. L'enseignement que Paul donne à Timothée est remarquable à ce sujet. Ce n'était pas simplement à cause de sa jeunesse, parce que c'était un frère extrêmement doué, mais il avait à être un modèle. il avait à expliquer, il avait à exposer justement. Donc, et ça c'est un exemple pour chacun de nous. Mais j'en viens au point suivant, faire pression ou partager. Ça aussi c'est quelque chose que nous avons vu pour la scène. Là, on peut, malheureusement, et je ne suis pas du tout critique, c'est quelque chose qu'il faut combattre en chacun de nous, utiliser la scène comme un moyen de pression. Dans toute la sincérité qu'on peut avoir dans son cœur vis-à-vis du Seigneur, en disant non Seigneur, c'est pas possible que je prenne la scène de cette façon-là à titre personnel ou dû à... Pourtant nous sommes invités par le Seigneur à la prendre dans le jugement de nous-mêmes. Le reste c'est le Seigneur qui le fait, ce n'est pas nous. Et puis vis-à-vis du comportement spirituel dans le rassemblement, c'est tout à fait essentiel. Alors bien sûr, dans la vie de la société, le chantage est utilisé très fréquemment. Que de fois, lorsque on s'est trouvé dans des situations de retravail ou pour faire passer telle ou telle idée ou aller dans tel ou tel sens, alors que ce n'était pas d'ordre clair, ces méthodes sont employées. Elles sont même enseignées pour que l'on use d'une persuasion par tout ce qui est, par tous les moyens, et en particulier les moyens affectifs. Dans le domaine de la vie de l'Assemblée, il faut faire extrêmement attention parce que ce qui est affectif nous touche au plus profond de nous-mêmes. Et nous pouvons aussi utiliser, malheureusement, de telles méthodes dans le rassemblement. Je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas avoir de l'affection les uns avec les autres, c'est tout le contraire. Hein. La seconde épître de Pierre est tout à fait claire à ce sujet. Hein. Nous avons à être affectueux et bien d'autres passages aussi, et à joindre l'amour à l'affection. Mais faisons attention de l'utiliser à bon escient, en laissant toujours la parole de Dieu agir. Il nous faut être bien clair sur ce sujet, c'est pour ça que ce second point, j'ai dit, voilà ce que l'on peut comprendre et interpréter pour notre vie. Et dans le premier point, c'est ce que Dieu dit, c'est pas ce que nous disons. Mais nous sommes appelés à vivre ce que nous avons saisi de l'Écriture. Alors, un autre point, nos appréhensions. En particulier vis-à-vis de ce sujet qui est devant nous sur la participation occasionnelle d'un chrétien à la scène. Donc, quelles sont nos appréhensions? Quelques-unes. Perte d'identité. Ah, vous dites, on se dit, si on le fait, on va être comme les autres chrétiens. Non. Non. Nous devons garder notre identité. Savoir pourquoi est-ce que nous sommes réunis là. Savoir ce qui est important vis-à-vis de la manière de se réunir et d'être entièrement soumis à l'Écriture. Quel est le moyen pour ne pas perdre cette identité? Il y a un verset dans Éphésiens 4, versets 14 et 15, « Gardant la vérité dans l'amour pour toujours croître en tout jusqu'à Christ. » Garder la vérité dans l'amour. Et l'apôtre Paul dit cela après qu'il parle de la révélation qu'il a, du mystère de l'Assemblée et de la responsabilité qu'il a eue vis-à-vis, pour enseigner ce ministère-là. Et comment est-ce qu'on peut le vivre? Eh bien, il le dit, gardant la vérité dans l'amour. Donc, perte d'identité, non. Non. Seigneur au Père, le Seigneur est bon. Le Seigneur agit. Second point qui touche un petit peu ce qu'on a vu un petit peu plus haut, élargir. C'est quelque chose qui a été souvent employé. Posons-nous cette question et élargir par rapport à qui et par rapport à quoi. Qu'est-ce que l'on élargit? Le chemin que l'on connaît et que l'on pense, mais que dit l'Écriture? Bien là, je vais lire un passage dans Jacques 2. à partir du verset 1er. Mais ce qui est devant nous, c'est plutôt le verset 8 et 9. Mais il faut lire le contexte. Mes frères, ne mêlez pas des considérations de personnes avec la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur de gloire, s'il entre dans votre réunion un homme portant une bague d'or ou vêtements éclatants, et qu'il entre aussi un pauvre en vêtements sales, si vous regardez vers celui qui porte les vêtements éclatants et que vous disiez « Toi, assieds-toi ici à ton aise » pour dire ensuite au pauvre « Toi, tiens-toi là, debout » ou « Assieds-toi ici au bas de mon marchepied », n'avez-vous pas fait une discrimination en vous-même? N'êtes-vous pas devenus des juges ayant de mauvais raisonnements? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Mais vous, vous avez méprisé le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui blasphème le bon nom qui a été invoqué sur vous? Si en effet, c'est les versets, je cite, donc, si en effet vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites des distinctions entre personnes, vous commettez un péché. Et vous êtes convaincus par la loi d'être des transgresseurs. Car quiconque gardera toute la loi et trébuchera sur un seul point est coupable sur tous. La loi royale. Alors, ce n'est pas avoir cette disposition de cœur pour recevoir qui est élargie, absolument pas. Parce qu'il y a tout le respect de l'enseignement de l'Écriture qui doit y être associé. Mais faisons bien, posons-nous vraiment cette question, lorsque nous recevons ou nous ne recevons pas, lorsque nous participons ou nous ne participons pas, est-ce que nous respectons bien ce que nous avons lu dans cette épître de Jacques? Faisons-nous des distinctions ou pas? Il y a des distinctions à faire vis-à-vis du mal, oui. Vis-à-vis des croyants, eh bien ce texte me paraît clair. Alors, une troisième appréhension, relier l'enseignement reçu. C'est aussi une véritable crainte. Parce que nous avons beaucoup reçu. Nous avons beaucoup appris. Et c'est quelque chose, quand on y réfléchit, qui est inouï, le terme peut-être un peu exagéré, mais le privilège, non, il n'est peut-être pas si exagéré que ça. La grâce qui nous est faite, on pourrait dire la chance que nous avons eue de la part du Seigneur d'être enseignés, c'est très important. Mais ce qui compte, et mon propre grand-père, que plusieurs ont connu, a dit à ses enfants et petits-enfants, il faut marcher avec ses propres jambes, pas avec les béquilles des autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut marcher avec ses propres jambes. Alors, au tout début, c'est pas facile, on a besoin de béquilles d'autres. Mais si on veut avancer, eh bien, on jettera les béquilles de chaque côté, on marchera avec ses propres jambes, tout en considérant que ce que nous avons reçu, appris, c'est essentiel. Mais nous avons affaire au Seigneur, nous avons affaire à lui. Qu'est-ce qui nous est dit derrière un passage bien connu dans Actes 17? Eh bien, ils regardaient si ce qui leur était enseigné était selon la parole de Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils n'avaient que l'Ancien Testament. Vous vous rendez compte du privilège que l'on a? S'il fallait comprendre ce qu'est l'Assemblée simplement à partir de l'Ancien Testament, ce serait extrêmement, je considère cela comme très difficile. Et pourtant, c'est ce qu'il faisait. Et puis, nous sommes appelés dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, à mettre tout à l'épreuve et de retenir ce qui est bon. Et ce qui est bon, eh bien, c'est ce que nous avons saisi, compris de la part du Seigneur, et ce que nous avons saisi et compris, nous avons aussi à le partager ensemble. Alors, simplement pour terminer sur ce sujet, vous avez, je pense, saisi que ma conviction peut être personnelle, mais bon, je sais bien que elle est historiquement, donc depuis dans les assemblées, depuis le réveil, ma conviction personnelle, c'est l'accueil. Donc, c'est quelques réflexions que je vous soumets à partager ensemble. Peut-être pas là, mais après, pour avancer sur ce sujet-là. Une direction. Accueillir pour se soumettre à l'Écriture comme Christ nous a reçus. Une nécessité, connaître et témoigner de la foi, de la piété et de la conduite de celui qui désire participer. C'est mettre la communion à l'aise et libre entre les frères et sœurs. Un devoir d'amour. Faire connaître sans précipitation, je le lis, parce que chaque mot. Il faut faire attention sur ce sujet-là. Faire connaître sans précipitation ce que nous avons reçu. Croyons et vivons, c'est notre identité concernant la scène. Pas un droit, pas seulement une responsabilité individuelle, pas de conditions posées. Respect de ce qui est vécu dans le rassemblement, soumission mutuelle, tout cela, nous en trouvons bien sûr les fondements dans l'Écriture, et il y en a peut-être d'autres. Et ce qui me paraît être tout à fait essentiel pour avancer, et c'est notre responsabilité à chacun, une confiance mutuelle. L'Assemblée ne peut pas, le rassemblement local ne peut pas vivre, réaliser ce que nous sommes individuellement et collectivement en Christ, sans qu'il y ait cette confiance mutuelle. Et il y a les deux côtés. Cette confiance, elle se prouve, elle se gagne, pourrait-on dire, mais elle se doit aussi. C'est ce que nous avons vu vis-à-vis de ceux qui sont dans une responsabilité particulière et qui les proposent. Alors comment le faire ? Eh bien, il faut que le cadre soit clair et connu. Si on ne connaît pas les règles du jeu, entre guillemets, eh bien, ça va créer des problèmes. Il faut que l'attitude et le cadre soient bien connus pour réaliser cet acte. Voilà, donc, ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Il y a un autre point dont m'a parlé un frère depuis, que j'aborderai pas là, mais qui est important aussi, c'est prendre la scène dans un milieu chrétien. C'est un sujet très complémentaire, il y a quelques points qui sont importants ici, mais pour y réfléchir, je propose donc quelques questions. J'aurai donc dans le texte, pourquoi est-ce que nous le faisons? Pourquoi nous sommes tentés, ou pourquoi est-ce que nous allons dans un autre milieu chrétien? Il faut bien se poser la question à soi-même, pourquoi est-ce que je le fais? Comment sont-ils réunis? Qu'est-ce qui nous sépare? Prennent-ils la scène selon ce que j'ai compris de l'enseignement de l'Écriture? Sinon, pourquoi? Si personnellement j'ai la liberté de participer à la scène-là, serais-je une pierre d'achoppement ou une difficulté donc pour mes frères et sœurs du rassemblement auquel je me rattache? Je dois dire à titre personnel que cet exercice, dans mes différents voyages, se sont posés. Il faut répondre non pas à un point ou deux, mais à l'ensemble de ces points-là pour avoir une attitude claire et ne pas entrer dans ce qui nous est dit, d'une part ce qui est dû au Seigneur et d'autre part la communion à laquelle nous sommes appelés pour aller avec nos propres frères. Alors, en conclusion, je rappellerai simplement, je n'excusez pas fait sur la présentation, à la fin de chaque passage, soit des évangiles, 3 euros, 1 Corinthiens 10 et 11, je vais proposer un sommaire. Je vais vous le relire parce que c'est ça qui compte. Bref, c'est le Seigneur qui le fera par son esprit. Sur les évangiles, je le rappelle, la scène exprime le fondement de la communion. La scène est un repas, entre parenthèses, souper, institué par le Seigneur et pris par ses disciples. Deuxièmement, le signe de la mort de Christ, sans séparer du corps. Troisièmement, mangé et bu par les croyants à la demande et en mémoire du Christ. Quatrièmement, le rappel répété et visible de la vertu divine et salutaire du sacrifice de Christ sur la croix, son corps offert, son sang versé. Voilà ce que nous avons. Nous voyons dans les évangiles, dans 1 Corinthiens 10. La scène exprime le fondement de la communion. Chaque participant a été lavé de ses péchés par le sang de Christ versé à la croix. La communion entre le Seigneur et ses rachetés, un seul corps. L'identification du croyant à son Sauveur en ce qu'il est mort avec lui. Quatrièmement, la sainteté de notre salut et la séparation d'avec le monde dont Satan est le prince. Nous prenons la scène, invités à sa table, qui est un lieu spirituel. Et puis, le sommaire de 1 Corinthiens 10, la scène ne peut être déviée de son but. Elle doit rester le repas pris sur la terre, préparé et donné par le Seigneur en attendant qu'il vienne. Elle est la manifestation suprême de l'amour du Seigneur qui est mort pour nous donner la vie éternelle. Elle exprime la perfection du sacrifice de Christ, en ce que nous avons l'assurance que nos péchés jugés, confessés et abandonnés sont pardonnés. Et c'est dans cet état que nous la prenons. Elle manifeste la souveraineté du Christ. Je rappellerai donc pour terminer ce verset d'Éphésiens 5. Il a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présente l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle soit sainte et irréprochable. Frères et sœurs, est-ce que nous douterions des soins du Seigneur sur son assemblée, quel que soit ce que nous pouvons penser de l'état de l'assemblée ou des uns et des autres? Non, je répète, afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle soit sainte et irréprochable. Quel bonheur de pouvoir tendre vers cela, de pouvoir éprouver cela de la part de ses frères et sœurs. C'est la réalité. C'est pas pour demain, c'est ce que nos frères et sœurs ont vécu, c'est ce que nous vivons. Nous sommes chacun et tous aimés du Seigneur et son amour. Eh bien, il veut produire du fruit en nous et au milieu de nous.